grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Une personne sur 10 a connu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois. Au cours des années 2010, les cas de dépression ont sensiblement augmenté, comme la prescription de traitements antidépresseurs. Nous verrons dans quel cas il est peut-être possible de s'en passer, comment fonctionne cette catégorie de médicaments, quels sont les risques en cas d'arrêt prématuré sans avis médical, quelles sont les thérapies complémentaires les plus efficaces en appui des traitements antidépresseurs, quels sont les liens entre l'alimentation et la dépression, quid de l'activité sportive et physique ou encore de la phytothérapie pour surmonter un épisode dépressif. Pour nous éclairer ce matin, le médecin-chercheur Guillaume Font et le professeur en pharmacie François Chaste. Toutes vos questions sur les antidépresseurs et les solutions alternatives au 01 45 24 7000 sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, sur l'appli et le site de France Inter, avec nous bien sûr Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle et ses questions plus pertinentes que les miennes. À tout à l'heure, Marie-Laure. Et c'est le grand retour de notre ami Christophe André.
Bonjour, bonjour.
Je suis heureux de vous retrouver. Quoi de neuf dans vos choses vues tout à l'heure?
Ah, dans les choses vues, je vous parlerai d'inégalités, de douleurs morales, de matins qui chantent ou qui ne chantent pas, et puis évidemment d'antidépresseurs.
Et puis nous retrouverons en fin d'émission Sébastien Boller, le directeur du mensuel Cerveau et Psycho, qui évoque ce mois-ci les liens entre le corps et l'esprit, c'est ça?
Oui, tout à fait, ce qu'on appelle la cognition incarnée.
Ouh là là, ça a l'air très compliqué, mais vous allez tout nous expliquer, ouais. Mon cher Sébastien Boller. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébi.
Dans quel cas peut-on se passer d'antidépresseurs? Pour nous répondre, deux invités. Bonjour, docteur Guillaume Font.
Bonjour, Ali.
Psychiatre, médecin-chercheur à l'hôpital de la Conception à Marseille. Vous êtes l'un des grands spécialistes des liens entre le microbiote intestinal et les troubles mentaux. Dernier ouvrage paru chez Flammarion, Je fais de ma vie un grand projet. Bonjour, professeur François Chaste.
Bonjour.
Pharmacien des hôpitaux à la PHP. Vous avez notamment publié chez Talendier Les médicaments en 100 questions. Docteur Guillaume Font, qu'est-ce qu'une dépression? Et alors, quels sont les critères d'un épisode dépressif?
Il y a des critères très précis, parce qu'effectivement, c'est un mot qui est employé à tort et à travers, qui a été galvaudé. Une dépression, c'est une intense douleur morale qui dure plus de 2 semaines, quasiment permanente, qui peut être associée à une perte complète de plaisir. Les personnes n'ont plus de joie dans ce qui leur donnait habituellement de la joie, être avec leurs proches, par exemple. Ça, c'est les deux symptômes indispensables pour le critère de la dépression. Et à côté de cela, arrive un cortège de symptômes comme les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, des troubles de concentration, de mémoire. Et ça peut aller jusqu'à des idées suicidaires aussi, qui sont un critère de gravité.
Christophe André.
Oui, c'est vrai que c'est important ce qu'on rappelle Guillaume, c'est-à-dire qu'il y a évidemment dans toute vie humaine des périodes plus difficiles que d'autres, où on est triste, on n'a pas le moral, on souffre même psychologiquement, mais la dépression c'est une maladie, en tout cas quand un psychiatre, un médecin parle de dépression, il parle d'une maladie qui est invalidante, qui est grave par les conséquences qu'elle peut avoir, qui empêche de vivre tout simplement. Donc c'est là qu'on se pose la question évidemment d'une intervention médicale, on n'intervient pas médicalement sur de la tristesse, ou du spleen, mais sur une maladie authentique.
Qu'est-ce qu'il ne faut jamais dire à un dépressif, Guillaume Font ?
Qu'il faut se secouer, qu'en fait, il faut bien avoir conscience que la personne dépressive s'auto-accable. Elle est dans une culpabilité permanente d'être dans cet état. Donc, tout ce qui va alimenter ça, renforcer son image d'une personne incapable, va l'enfoncer plus que l'aider. Donc, le secoue-toi, ça ne marche absolument pas.
Alors, je suis déprimé quelques jours. Qu'est-ce qui fait la différence avec un collègue de travail, un ami qui connaît une dépression? C'est quoi la différence entre une déprime passagère et une dépression?
Alors, je dirais que c'est surtout le retentissement dans le fonctionnement. À partir du moment où on n'arrive plus à faire les tâches qu'on faisait habituellement, comme les tâches du travail ou les tâches de la vie ordinaire, là, on a vraiment un signe d'alerte assez fort. Les idées suicidaires ne sont jamais adonnées aussi. Quand on commence à penser à avoir des idées de mort, ça c'est aussi un signal qu'on n'est pas dans une simple déprime.
Oui. C'est pour faire simple, ce qui différencie finalement la tristesse dépressive de la tristesse banale, ordinaire, normale, on pourrait dire, c'est d'une part l'intensité. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la dépression, il y a ce qu'on appelle une douleur morale. Les gens souffrent terriblement. Alors, on ne voit pas extérieurement de support à cette souffrance. Ils n'ont pas de bras cassés, ils n'ont pas de cicatrices, mais la souffrance est vraiment très violente. Hein. Tous les rescapés de la dépression nous disent à quel point, et puis quand on les écoute, c'est important. Deuxièmement, il y a la durée dont parlait Guillaume. Hein. C'est quelque chose, c'est pas juste une heure ou deux, un jour ou deux, c'est vraiment continu sur plusieurs jours et même plusieurs semaines pour atteindre les critères. Et troisièmement, les répercussions. Vraiment, une dépression empêche de vivre, tout simplement. Donc au début, les patients arrivent à faire l'effort, s'arrachent de leur lit le matin, font semblant, etc. Mais ça leur coûte une énergie telle que ces faux semblants ne peuvent pas durer bien longtemps.
Docteur Guillaume Font, environ 10% de la population générale française connaît un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois. C'est le premier trouble mental ?
Oui, c'est le plus fréquent dans la population française. Au cours de la vie, un Français sur cinq aura fait un épisode dépressif. Certains, même je dirais une trop forte proportion, ne sont pas traités et pas diagnostiqués. Je connais énormément de personnes, de patients qui me disent « j'ai fait une dépression à l'âge de 22 ans et je ne savais pas que c'était ça ».
Quelles sont les populations les plus touchées ?
Alors, l'âge moyen est autour de 30 ans, mais en fait, il y a deux pics. Il y a un pic qui est autour de l'adolescence, puis un deuxième pic plus tardif qui arrive dans la deuxième partie de la vie. Et puis, il y a toutes les dépressions qui sont réactionnelles à un licenciement, à un divorce. Et ça peut survenir à n'importe quelle partie de la vie.
Alors, on assiste à une augmentation des cas de dépression tout au long des années 2010 par rapport à la décennie précédente. Comment expliquer cette augmentation des épisodes dépressifs dans la population générale ?
Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer la prévalence de la dépression dans la population qu'on ne peut pas identifier un facteur, et en fait on pense qu'il y a des facteurs qui diminuent et d'autres qui augmentent.
Par exemple,
parmi les facteurs qui diminuent, on a quand même une meilleure prévention, un meilleur dépistage, un meilleur traitement. Donc la prévalence de la dépression devrait s'améliorer de ce point de vue-là. Par contre, je pense qu'il y a des facteurs qui s'aggravent, comme notamment l'alimentation, qui est une vraie question en fait, le potentiel inflammatoire de l'alimentation, qui explique aussi les augmentations de prévalence d'autres maladies chroniques, comme le cancer par exemple. Donc c'est des facteurs qui sont communs, donc il n'y a pas de différence entre les maladies psychiques chroniques et les maladies physique chronique, les facteurs de risque sont souvent les mêmes. L'absence d'activité physique aussi a sûrement un rôle important.
Marie-Laure Zonshine, de Femmes Actuelles.
Oui, puis il y a une différence majeure, c'est celle du genre, précisément. Les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes. On va dire qu'elles ont plus de risques de vivre un épisode majeur. C'est ce qui explique, entre autres, cette différence sensible.
L'explication de cela, donc, c'est l'influence hormonale, parce que le risque des femmes rejoint celui des hommes après la ménopause. Donc, en fait, c'est la question des œstrogènes et de la progestérone, effectivement. On sait aussi que la contraception peut modifier le risque de dépression. Alors c'est très débattu actuellement. Il y a eu une étude danoise sur plusieurs millions de femmes danoises qui ont montré que certaines pilules pouvaient modifier le risque de dépression en fonction du dosage des hormones. Donc les hormones ont un rôle dans le cerveau et peuvent modifier le risque de dépression.
Sébastien Boller, de Cerveau et Psycho.
Oui, je me suis posé la question du rôle du stress, parce que c'est vrai que si on se dit que la dépression augmente, on a le réflexe de se dire qu'il y a quelque chose dans la société aussi qui bouge. Il y a l'accélération des rythmes de vie, la précarité, le chômage, il y a l'humeur hein, en général, qui est un peu galvaudée comme terme en économie, l'humeur des ménages, les potentialités d'avenir, l'optimisme des foyers. Est-ce que ça joue pas aussi le stress à long terme ?
Alors on a essayé de voir sur la question de la dernière décennie l'impact de la crise de 2008 en fait. Et on a trouvé donc des études qui ont montré en Grèce effectivement l'impact de la crise sur le taux de suicide. Il y a eu un vrai impact sur la santé mentale de la population grecque. Par contre, ça n'a pas été démontré en France. On n'a pas retrouvé cet effet-là on n'a pas trouvé un pic, en fait, qui puisse être associé à un événement. Il n'y a pas eu de corrélation non plus directe avec les situations économiques, comme le PIB ou le taux de chômage.
Christophe André.
Oui, cette question de savoir s'il y a vraiment une augmentation explicable des épisodes dépressifs en population générale, on peut aussi la représenter sous deux formes, en disant qu'il y a quand même un certain nombre de facteurs qui traditionnellement peuvent nous protéger de la dépression, qui sont en recul. Guillaume Font parlait de l'alimentation, il y a aussi le soutien social, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes isolées par exemple, etc. Et puis aussi un accroissement de certains facteurs de risque, la pollution, le stress. On a des études montrant que ces facteurs sont des facteurs aggravants. Donc, c'est un phénomène tellement complexe, comme on dit dans notre jargon, multifactoriel, que c'est délicat de donner des réponses très tranchées. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on comprend mieux le rôle respectif des facteurs de risque et des facteurs protecteurs, qu'il ne faut pas oublier.
Dans quel cas est-il possible de se passer d'antidépresseurs sous avis médical, bien évidemment? Racontez-nous votre rapport avec ces médicaments. Toutes vos questions sur les antidépresseurs au 01 45 24 7000, sur la page Facebook de Grand Bain Vous Fasse, ainsi que sur l'appli France Inter. Claire Destacant, Clara Marliot et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission. À la réalisation, Stéphanie Texier.
Alors c'est quoi que j'appelle?
Alors c'est quoi parler Rita Mitsuko?
On vide son sternum et on ouvre bien grand les chakras. Encore un dernier ion. Ion.
Grand bien vous fasse.
T'as complètement déstabilisé Charlotte. Elle a au moins 6 chakras de refermer.
Ça va, toi l'escroc, te mêle pas de ça, sinon je vais te les refermer, tes chakras, ça va être vite fait.
Sur France Inter.
10h20, est-il possible de se passer d'antidépresseur? Toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Mais moi je suis antidépresseur, mais je pense que c'est moi qui suis normal. Je suis ça m'étonne, quoi, les gens qui arrivent à vivre la vie qu'on vit et sans rien prendre. Je trouve qu'on n'est pas tous fait pareil. Moi, je peux pas. J'ai tenté d'arrêter. Si j'arrête, je peux pas.
Hein. Qu'est-ce qui se passe?
Oh, ben, j'ai envie de mourir, hein, c'est facile. Enfin, j'ai plus envie. Tout m'agresse. Je peux pas. Dernièrement, j'ai essayé d'arrêter. Là, pour Noël, je voulais m'offrir ça pour Noël. Oh là là, la catastrophe. Au secours. La catastrophe. J'allais dans le mur. Mais dans le mur direct. Hein. Donc, c'est pas la peine. Bon, je fais partie de ces gens-là. Donc, ça veut bien dire, quand même, quand on vit avec des médicaments, ça veut dire que non, la société, je suis pas bien équipée, moi, pour. J'ai pas tout, quoi.
Docteur Guillaume Font, sur le témoignage de la comédienne Muriel Robin, interviewée en 2017 par Fabienne Pascaud.
Oui, c'est assez caractéristique d'une dépression, en fait, de dire que la vie est tellement violente qu'on ne comprend pas qu'on puisse se passer d'antidépresseur.
Christophe André.
Oui. D'un autre côté, moi, je comprends un peu ce que veut dire Muriel Robin. C'est compliqué, la vie. Il y a des gens qui sont tellement fragiles que finalement, le confort que leur apportent les antidépresseurs fait que c'est eux qui refusent de les arrêter. Moi, j'ai le souvenir de plein de patients qui disent, écoutez, tout va très bien comme ça, on va rien changer, hein, vous me faites le renouvellement.
Je pense que c'est un message très important, effectivement, pour la santé publique, hein, qu'on peut dire aux auditeurs, c'est qu'il ne faut pas à tout prix arrêter les antidépresseurs, parce qu'il y a des patients qui refusent de les arrêter, et puis il y en a d'autres qui sont perturbés par le fait de devoir prendre un médicament, et donc de dire je veux les arrêter, et donc souvent on les arrête trop tôt, donc la recommandation c'est quand même au moins 6 mois après la disparition de la dépression pour éviter la rechute, parce que c'est la période à risque. Il y a plus d'une chance sur deux de rechuter si on les arrête trop tôt. Et au-delà de 3 épisodes dépressifs, le risque de rechute est supérieur à 90%. Donc autant dire qu'au-delà de 3 épisodes dépressifs, généralement, on ne recommande plus d'arrêter les antidépresseurs.
Alors que se passe-t-il dans le cerveau des dépressifs? Est-ce que ça se résume à un déficit de sérotonine? La sérotonine popularisée par le dernier roman de Michel Houellebecq?
Alors, l'hypothèse de la sérotonine est l'hypothèse la plus solide, car quasiment tous les antidépresseurs augmentent la sérotonine dans le cerveau.
Expliquez-nous ce que
c'est. La sérotonine, c'est l'hormone qu'on appelle l'hormone du bonheur. Alors, c'est très abusif de dire ça, hein. Le bonheur n'a pas une hormone dans le cerveau. C'est comme l'ocytocine, on disait l'hormone de l'attachement. Enfin, on simplifie beaucoup quand on dit ça. Donc, la sérotonine, c'est ce qui régule l'humeur, le moral, mais aussi l'appétit et le sommeil. Donc ça permet à notre cerveau de bien fonctionner et c'est en particulier présent dans une partie du cerveau qui gère les émotions. Et donc du coup, quand la sérotonine est diminuée, il y a un phénomène de ralentissement et d'abrasion. C'est un peu comme si on ressentait moins les choses avec moins d'intensité. C'est ça le vécu dépressif.
Professeur François Chaste, à quelle date sont apparus les premiers antidépresseurs?
Alors, la dépression est une maladie qui est connue depuis Hippocrate. Hippocrate a défini ce trouble des humeurs qu'on appelait la bile noire, hein, la mélancolie, mélanos noire, colie la bile. La bile noire, c'est quelque chose qui décrivait une dépression totale, où le corps ne s'appartient plus, où on est possédé par un désespoir définitif. Bon. Baudelaire, au XIXe siècle, a très bien décrit le spleen, et on peut globalement considérer que la dépression, le spleen, se ressemble, enfin, dans les descriptions qu'il en faisait. Mais à ces époques, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent pour soigner la dépression. Il a fallu attendre l'explosion de la psychopharmacologie, de cette pharmacologie des troubles mentaux, des troubles du comportement au début des années 1950 pour voir apparaître que une substance chimique, et ça a été découvert par hasard, à Paris.
Par hasard?
Par hasard. Un chirurgien laborite utilise dans le cadre des troubles des suites opératoires un médicament et il observe que ces malades sont plutôt détendus. Il le propose, il traverse le boulevard de Port-Royal, il arrive à l'hôpital Sainte-Anne, il le propose au psychiatre de l'hôpital Sainte-Anne, Pierre de Niquer, Jean Delay, Thérèse Lempierre, et on s'aperçoit que ces médicaments, presque miraculeusement, prennent en charge les psychoses, certaines psychoses, en particulier la schizophrénie. Alors, c'est Ron Poulenc qui est à l'origine de cette substance chimique qui va devenir la chlorpromazine. La chlorpromazine agit sur les psychoses, c'est un antipsychotique, en rien un antidépresseur. Mais, évidemment, l'industrie pharmaceutique va s'emparer de cette idée. Et en Suisse, la firme GJ, qui est à Bâle, va essayer de développer un certain nombre de substances, de molécules, et va proposer à l'école psychiatrique suisse, et en particulier un psychiatre, Roland Kuhn, à Zurich, qui va essayer ce qui est un candidat anti-schizophrénie, Et il s'aperçoit que ça ne marche pas du tout. En revanche, il observe qu'au bout de quelques mois, des patients qui étaient déprimés ne le sont plus. Et ça va être la découverte d'un médicament majeur qui reste aujourd'hui un médicament important, l'imipramine, qui est le chef de file de ce qu'on appelle les antidépresseurs tricycliques, qui va être utilisé. Alors, découverte 1958. De manière un peu anecdotique également, et de manière hasardeuse, il y a de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, une découverte tout à fait étonnante. On commence dans les années, à la fin des années 40 et dans les années 50 à découvrir des médicaments antituberculeux, en particulier l'isoniazide. L'isoniazide, c'est le premier médicament antituberculeux majeur. Et de la même manière, on va essayer de multiplier des tentatives de découverte. Et parmi ces produits, il y a l'iproniazide. L'iproniazide, on va dans les hôpitaux qui accueillent les tuberculeux, les SANA, notamment l'hôpital Bellevue à New York, on va donner à ces patients cet iproniazide. Et on va s'apercevoir que l'iproniazide non seulement est un bon médicament antituberculeux, mais va soigner ces malades déprimés, enfermés, entre guillemets, dans ces sanatoriums, et il va y avoir une transformation. Donc, deux découvertes, 1957, Roland Kühn, en Suisse, avec l'imipramine, 1958, Nathan Klein à New York, avec la découverte du premier inhibiteur de monoamine oxydase, l'IMAO, qui est un autre mécanisme qui, en quelque sorte, va booster la production de ces neuromédiateurs dans le cerveau.
Comme la sérotonine.
C'est très intéressant de se rappeler qu'à l'époque, les psychiatres étaient extrêmement sceptiques. Il a fallu plus de 10 ans pour qu'on accepte qu'une molécule chimique puisse agir sur la psyché. Et donc, à chaque fois qu'il y a une grande découverte comme ça, on se rend compte qu'il y a un scepticisme souvent qui l'accueille. Et puis après, elle fait sa preuve.
Bonjour Brigitte, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour. Donc, quelle est votre question, Brigitte ?
Alors, c'est pas une question, c'est plutôt un témoignage. Mm-hmm. Ma dernière dépression est due à ma prise de retraite, en fait. Mm-hmm. Ça a commencé à l'automne parce qu'il fallait que je prépare mon dossier. Mm-hmm. Et on me demandait énormément de papiers, donc ça m'a pris la tête, comme on peut dire. Et j'ai dû retourner voir la psychiatre qui me soignait pour reprendre un traitement. Et je vois parallèlement une psychologue qui m'a dit, mais il faut accepter ces médicaments, c'est comme si vous étiez atteint de diabète, vous prenez un médicament pour vous soigner. Quand elle m'a dit ça, j'ai accepté. C'était bien plus simple pour moi de me dire, oui, je suis malade, je prends un médicament, tout simplement. Parce que j'ai dans mon entourage, mes sœurs qui me disent, ah, tu prends encore antidépresseur, t'as peut-être pas besoin, bouge-toi. C'est pas des paroles qu'il faut dire à quelqu'un qui, justement, n'arrive plus à bouger.
Témoignage voilà. Très intéressant de Brigitte, docteur Guillaume Font.
Merci, bonjour Brigitte. C'est terrible, parce que si quelqu'un a un accident et qu'il a les deux jambes fracturées, on va pas lui dire, mais remets-toi à marcher, il faut pas se laisser aller. Comme disait Christophe, en fait, c'est une maladie qui ne se voit pas, et c'est ça qui est terrible. Il n'y a pas de stigmate de la dépression. Tout se passe à l'intérieur et ça génère une incompréhension parce que justement on le confond avec la déprime que tout un chacun peut avoir ressenti. Et du coup, les personnes ne comprennent pas qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le corps et dans le cerveau. J'insiste sur le corps et le cerveau parce que c'est pas que dans le cerveau aussi. Ça provient souvent d'un dysfonctionnement global en fait, parce qu'il y a plein de facteurs de risque de dépression qui sont pas que la sérotonine du cerveau. En fait, l'inflammation est un facteur de risque de dépression. Donc toutes les maladies inflammatoires, les maladies de l'intestin, les cancers induisent de la dépression et pas simplement parce qu'on est malade. C'est vraiment biologique. Donc il faut avoir ça à l'esprit.
Marie Lorzonschein de Femme Actuelle.
Oui, Brigitte évoquait à l'instant les réflexions, les commentaires de son entourage. Justement, l'entourage, la haute autorité de santé dit, préconise justement de prévenir l'entourage, de finalement l'informer du traitement du patient, des effets secondaires, de la nécessité de le poursuivre. C'est quand même écrit noir sur blanc, c'est une recommandation forte.
Et pas assez appliquée, malheureusement. Mmh. J'ai beaucoup de plaintes des entourages de patients qui me disent le psychiatre refuse de nous recevoir ou de communiquer avec nous, alors que je pense que c'est le devoir du médecin pour tous les médecins, pas que pour les psychiatres. Il y a un problème de temps, hein, de disponibilité. Et puis, il y a aussi une vision sur la personne est majeure, donc c'est elle qui est responsable après de parler à son entourage, alors qu'elle n'est pas toujours en état de le faire. Et puis surtout, c'est compliqué pour quelqu'un de dépressif d'expliquer sa dépression à son entourage.
Christophe André.
Oui, et puis il y a malheureusement encore dans l'esprit de certains soignants l'idée que c'est un peu la faute de la famille, que les trucs ne sont pas clairs, que finalement il faut écarter les proches. Alors on a vu ça en psychiatrie de l'enfant, à un moment donné on tenait les parents à distance alors que c'est eux qui vivaient avec l'enfant en permanence. Et c'est vrai que moi je crois que c'est un devoir vraiment pour tout médecin ayant à prendre en charge un déprimé d'appeler les proches, s'il y en a évidemment, parce que parfois les gens sont seuls, et d'utiliser la comparaison qu'évoquait Guillaume, de dire c'est comme une fracture. Si quelqu'un a la jambe cassée, on ne lui demande pas de se secouer, de se bouger. La dépression, malheureusement, ça ressemble à ça.
Merci beaucoup, hein, Brigitte, de nous avoir appelé. Sébastien Boller, de Cerveau et Psycho.
Christophe disait fracture, ça fait penser même à mes fractures de vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a souvent des ruptures de vie. Alors, la retraite peut faire partie de moments où la vie change du tout au tout. Et j'ai l'impression que c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans les dépressions. C'est soudain un vide d'objectif ou un vide de sens. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler? La retraite en fait partie. Je me souviens même d'un témoignage de David Douillet quand il avait gagné son titre olympique. Il avait dit « j'avais plus d'objectif, j'ai fait une dépression ». Est-ce que la notion d'objectif, de tension vers quelque chose qu'on poursuit est un facteur de prévention?
Guillaume Font.
Moi, je pense qu'il est très important de garder des objectifs. Et le problème de la retraite, c'est qu'on est basé sur une société qui donne une énorme place au rôle social actif. Et que quand on n'a pas préparé correctement sa retraite, on se retrouve face à un grand vide. C'est-à-dire, qu'est-ce que on va faire de toutes ces journées, effectivement, où... Et surtout, on arrive dans une période de la vie où on se dit, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui me reste à vivre? Et donc ça, c'est des vraies questions existentielles qui induisent une crise qui... Enfin, crise, c'est pas un terme péjoratif, hein, c'est un état de transition, en fait.
Guillaume Font, les médicaments antidépresseurs sont toujours prescrits en première intention?
Non. En fait, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est soit la psychothérapie, soit les antidépresseurs. Et ce qui marche le mieux, c'est les deux en association. Donc, il n'y a pas d'obligation. Moi, je reviens toujours surtout la demande du patient, parce que s'il y a ce qu'on appelle un effet nocebo, c'est-à-dire que le patient va croire que l'antidépresseur va lui faire du mal, ça peut être aussi très, très néfaste. Donc, il faut bien explorer cela.
Professeur François Chaste, quels sont justement les effets secondaires dont peuvent se plaindre certains patients?
Avant d'évoquer les effets secondaires, je voudrais dire que les antidépresseurs ne sont pas des médicaments qui fonctionnent à 100%. On n'a pas, contrairement à certaines classes de médicaments, une efficacité absolue. Les traitements qu'on a actuellement, par exemple, pour la prévention, le traitement des ulcères digestifs, c'est des médicaments qui marchent dans 90% des cas. Dans le domaine des antidépresseurs, c'est moins évident. Les antidépresseurs fonctionnent plutôt pas mal dans les dépressions sévères, modérément dans les dépressions modérées à modestes. Donc, il faut relativiser l'efficacité. Quant aux effets indésirables, ils varient en fonction des types de molécules, bien sûr, mais on a un premier effet indésirable majeur, semble-t-il, sur lequel je crois qu'il faut que nous discutions entre nous, c'est le risque suicidaire. Ce risque suicidaire, il a été mis en avant, et il y a probablement une modulation en fonction de l'âge des patients et en fonction du type de molécules qu'on utilise, voire du type de médicaments associés qu'on utilise. Et donc, je pense qu'il faut que nous puissions évoquer ce risque-là, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes.
Je ne connaissais pas ce risque, docteur Guillaume.
Il a été extrêmement débattu en pédopsychiatrie, effectivement, parce que ça s'est venu des États-Unis avec le drame de Columbine, en fait, où les adolescents qui avaient tiré, en fait, prenaient des antidépresseurs.
Dans leur lycée.
C'était la fluoxétine, le Prozac, qui était incriminé. Donc à partir de là, donc il y a eu toute une question sur l'augmentation du risque suicidaire, et on sait que le cerveau en développement est différent du cerveau de l'adulte, parce que notamment le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qu'on a au-dessus des yeux, n'est pas maturée. Et en fait, donc du coup, le contrôle de l'impulsion n'est pas le même chez l'adolescent. Et donc, ça pourrait avoir un effet différent. Et effectivement, les antidépresseurs ne fonctionnent pas chez tout le monde parce que tout le monde n'a pas un déficit de sérotonine. Et on ne peut pas savoir qui a un déficit de sérotonine et qui a une autre cause de dépression.
On peut être accro aux antidépresseurs ?
Alors, pas accro au sens d'une addiction, c'est-à-dire que ce n'est pas une dose et on n'a pas besoin d'augmenter les doses ensuite pour avoir son effet. Il n'y a pas un effet de plaisir qui est très important dans la définition de l'addiction. Il n'y a pas un effet euphorisant immédiat après la prise d'un comprimé d'antidépresseur. Et souvent, j'attire l'attention sur le fait qu'on confond les effets des antidépresseurs et des anxiolytiques. Souvent, quand on veut conspuer contre les antidépresseurs, on parle des anxiolytiques en disant ça va me rendre dépendant, ça va me rendre zombie, ça va me fatiguer. Alors que ça, c'est vraiment la catégorie des anxiolytiques.
Allez, il est temps de retrouver les choses vues de notre psychiatre Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Choses vues.
Les choses vues de Christophe André.
Alors, dans les choses vues, je vais vous parler des inégalités. Il y a toutes sortes d'inégalités qui frappent les humains. Richesse, beauté, intelligence et bien d'autres. Mais les plus cruelles, à mes yeux de médecin, sont les inégalités en matière de santé. Certains peuvent fumer jusqu'à 100 ans, car ils ont les bons gènes, tandis que d'autres, malgré une vie plus saine, meurent à 30 ans. Et c'est la même chose en termes de santé mentale. Parmi les humains, il y a des résilients absolus que rien ne peut abattre, et aussi des ultra-fragiles brisés par toutes les adversités. Certains, dont je suis, doivent souvent faire des efforts pour activer leur logiciel de bonne humeur dès le matin et tout au long de la journée. Et d'autres n'en ont aucun besoin, comme Montesquieu par exemple, dont voici un extrait de l'autoportrait. « Je m'éveille le matin avec une joie secrète de voir la lumière, et je vois la lumière avec une espèce de ravissement. Et tout le reste du jour, je suis content. Je passe la nuit sans m'éveiller, le soir quand je vais au lit, une espèce d'engourdissement m'empêche de faire des réflexions. » Quel vénard ce Montesquieu! Et vous savez quoi? Il n'est pas le seul.
La 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 la, le matin je m'éveille en chantant, et le soir je me couche en dansant. Entre temps je fais la sieste, voilà tout ce qui me reste. Où je me fais du café, on ne se soigne jamais assez. La 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 la.
Quand on ne fait pas partie de ces chanceux chez qui le logiciel de joie de vivre a été livré de série dès la naissance, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on en arrive à souffrir de maladies dépressives et à tomber au fond du trou, dans ces cas-là, les antidépresseurs sont une bénédiction. Lorsqu'ils marchent, seulement dans deux tiers des cas, hélas, ils sont à même de considérablement alléger les souffrances dépressives et de permettre aux patients de refaire des efforts au quotidien. Mais les antidépresseurs, aussi précieux qu'ils soient parfois, ne représentent pas une solution parfaite. Ils peuvent entraîner des effets secondaires gênants et ne sont pas satisfaisants pour l'image que certains patients ont alors d'eux-mêmes. Ce n'est pas valorisant de s'appuyer sur une béquille chimique. Et même lorsqu'ils marchent bien et sont bien supportés, tôt ou tard peut se poser la question de leur arrêt. Par quoi les remplacer alors ? C'est pour cela qu'il est recommandé d'associer dès le début les antidépresseurs à une psychothérapie et d'éviter les prescriptions orphelines, sans accompagnement psychologique ni remise en question de ses habitudes de pensée. Mais les soignants sont en train d'acquérir la conviction qu'il faut modifier non seulement ses habitudes de pensée, mais aussi ses habitudes de vie. Concrètement, au quotidien, de plus en plus d'études montrent ainsi le rôle protecteur de la méditation, de l'exercice physique, du soutien social, de l'alimentation, des émotions positives, pour prendre le relais des antidépresseurs et peut-être même pour les éviter dans les cas les moins sévères. Et l'attitude la plus recommandable pourrait bien être alors non pas de les arrêter comme ça d'un coup, ce qui est vraiment déconseillé, mais de les diminuer peu à peu une fois qu'on a changé durablement son mode de vie selon les directions que nous venons d'évoquer. Voilà, vous l'aurez compris, en tant que médecin, je suis favorable au bon usage des antidépresseurs. Ils sont comme la bouée qu'on jette à une personne en train de se noyer. Ce n'est pas le moment alors de lui apprendre à nager, mais il faut sauver sa peau. Ce n'est qu'une fois remonté à bord qu'on peut l'aider ensuite à modifier ses façons de vivre et de penser pour qu'elle puisse un jour se rejeter à l'eau sans bouée et affronter les inévitables douleurs et adversités survenant dans toute vie humaine. C'est alors Et alors seulement, une fois qu'ils sont guéris, que les patients peuvent éventuellement tirer les enseignements de leur dépression, sans embellir l'histoire, comme le font souvent les personnes qui n'ont jamais été déprimées, avec des phrases du genre « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, tu parles. Ce qui ne nous tue pas peut aussi nous rendre éclopés à vie. » Je préfère personnellement ce que disait Cioran. « Sur le plan spirituel, toute douleur est une chance. Sur le plan spirituel seulement. » Et vous, cher Ali, comment vous les supportez, vos moments de déprime ? Jogging ou Prozac ?
Alors moi, je suis un peu comme Montesquieu, et c'est plutôt le jogging.
Excellent.
Très tôt le matin.
Vous réveillez en chantant.
Exactement. pas avec du Guy Béard, en tout cas. Merci beaucoup, Christophe André. On peut retrouver votre chronique en vidéo sur le site de France Inter et sur la page Facebook de Romain Bouffas. Et on peut continuer à podcaster votre émission « Le temps de méditer », l'un des succès de l'été sur Inter. Allez, n'hésitez pas à nous appeler et à poser toutes vos questions sur les antidépresseurs 01 45 24 7000. It's the rap singer, the hook fast, real life crime fixing of a gas. Heartbeat a stone, boom so cold, cause my girl up and gone, she'll be back in the morning. Go to mama, take your trauma, seems like I can't live without her. I'm thinking more, cause my heart is broke, cause my love went wrong. Yeah, another bag and she left me in the mold, while the bubble over stove. As I was dreaming of a bag, and I woke, it was starting to snow. Oh, yeah. And in a bed full of cash, you slowly rolled over and whispered back to me. That's just the way things have to be. Hey, what can we do? Yeah, what can we do? What can we do? What can we do, baby? What can we do? Hey, what can we do? What can we do? That's when the change comes. That's when the game's done. That's when the walls come tumbling down. Interpréter What Can We Do.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h43, est-il possible de se passer d'antidépresseur ? Toutes vos questions au 01 45 24 7000. Et nous accueillons Élise. Bienvenue Élise.
Merci, bonjour à tous. Et franchement, depuis tout le début de l'émission, mais il y a énormément de choses qui me parlent. Et notamment le fait, enfin moi c'est mon compagnon qui est dépressif depuis des années. Mmh. Et il refuse de dire qu'il est malade. C'est moi qui lui dis qu'il est malade, il est malade alcoolique aussi, mais il refuse de dire qu'il est malade. Donc c'est un peu l'inverse, quoi. C'est moi qui lui dis qu'il est malade, et mais sans du tout le blâmer. Enfin bref, et donc il est suivi depuis des années, il prend des antidépresseurs depuis des années, mais interaction alcool antidépresseurs, je suis pas médecin mais je me pose quand même des questions, d'autant plus qu'il y a des moments, certains médicaments qu'il prenait c'était encore pire qu'avant, et ceux qu'il prend maintenant, en fait, il voit pas trop la différence, donc on se demande ce qui peut l'aider, même s'il commence à reprendre un peu goût à la vie et tout, mais c'est vraiment un dépressif sévère, et on se demande quel est le risque aussi d'arrêter du jour au lendemain les médicaments, et puis surtout les alternatives, effectivement, parce que moi je l'accompagne, ça commence à aller mieux, mais c'est tellement profond et sévère que qu'effectivement, enfin, y a pas, je sais qu'il n'y a pas de remède miracle et tout, mais en tout cas, les antidépresseurs, oui, je me pose des questions réellement sur les effets dans son cas, quoi.
Docteur Guillaume Font,
Le livre que j'ai rédigé chez Flammarion avait pour but justement de pouvoir proposer à toutes les personnes qui soit ne sont pas allées voir un psychiatre ou soit qui ont un suivi mais qui souhaitent mettre toutes les chances de leur côté de sortir de la dépression, d'avoir un manuel en fait de tout ce qu'on peut essayer. L'alcool entretient la dépression, c'est un toxique pour le cerveau. Donc ça, je sais que la dépendance à l'alcool est un grand problème. C'est très difficile de sortir d'une dépendance à l'alcool. On est sollicité en permanence dans notre vie quotidienne, notamment sur le plan social. Donc c'est déjà un enjeu, je pense, majeur pour votre conjoint. Je vois mal comment sortir d'une dépression si l'alcool reste avec une consommation problématique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler.
Et sur la question de l'arrêt?
Et donc pour les antidépresseurs, je pense que la question ne se pose pas actuellement d'après ce que vous décrivez, parce qu'il faut vraiment, enfin il y a des facteurs de maintien en fait, donc notamment l'alcool, mais peut-être d'autres, des facteurs de stress qu'il faudrait explorer. Donc je pense que la question de l'arrêt des antidépresseurs n'est pas d'actualité pour le moment, mais que ce sera possible un jour, et notamment on a parlé de la méditation et d'autres techniques aussi, de l'activité physique et de l'alimentation qui pourraient aussi aider votre conjoint. Il y a d'autres choses qui ont démontré de l'efficacité, comme le yoga aussi, qui est dans les recommandations canadiennes de la dépression.
Merci beaucoup Élise de nous avoir appelé. Bienvenue Gaëtane. Bonjour Gaëtane. Ouais.
Bonjour. Alors, un témoignage qui va peut-être faire écho beaucoup à la chronique de Christophe André. Mmh. J'ai fait une dépression avec une prise en charge médicamenteuse, mais aussi un accompagnement dans un cabinet pour m'aider un petit peu à libérer la parole et mettre des mots sur les mots, comme on dit. Et c'est vrai que ça a été une vraie respiration pour moi. Et ça m'a aidé à passer le cap, mais c'est vrai que je me suis rendu compte, parce que j'avais un peu que j'étais déconnectée de mon corps, que j'avais déserté mon âme, que cette dépression m'éloignait de moi, de mes proches, et donc il fallait que je trouve des moyens pour en sortir. Et typiquement, c'est vrai que le yoga, la natation pour moi, la méditation ont été ces lieux ressources. Alors ça a été des rencontres, ça a été des échanges, des lectures, des conférences. J'ai suivi le protocole MBSR qui a été qui a été la révélation pour moi. Alors c'est pas tous les jours facile, c'est un travail du quotidien au jour le jour, mais je vais bien et je veux aller bien, et je sais que maintenant voilà, je peux m'appuyer sur des choses qui me font du bien, et c'est surtout voilà, prendre soin de moi. Et alors après chacun trouve ce qui lui convient.
Merci beaucoup Gaëtane. Christophe André, tiens, pourquoi est-ce que vous avez utilisé, vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais à l'hôpital Sainte-Anne, vous avez longtemps utilisé la méditation de pleine conscience en complément des traitements antidépresseurs?
Oui.
Pour quelle raison?
Et en relais? Un peu pour ce que vient de décrire Gaëtane, c'est-à-dire le cas idéal, c'est le cas où la personne fait une dépression, comme elle, et en profite, entre guillemets, avec l'aide de professionnels de santé, pour repenser sa manière de vivre, pour se dire finalement, il y a plein de choses que je gère mal, mon stress, mon alimentation, mon activité physique, mes relations aux autres, ma vision du monde. Et donc, plus ça va, plus on comprend que pour aider les patients à ne pas rechuter, c'est important de les aider à transformer leur manière de vivre. Et on s'est aperçu que la méditation, finalement, était un outil très simple d'apprentissage qui nous permettait d'avoir du recul, un meilleur équilibre émotionnel, une meilleure lucidité sur nous-mêmes, et qu'elle s'avérait très précieuse. On a des études contrôlées, très costauds, très robustes, montrant que finalement, apprendre à des patients qui ont fait une dépression après coup, quand ils sont déprimés, c'est trop compliqué, à méditer, les protège efficacement, très efficacement, de la rechute.
Et il s'agit d'un protocole de 8 semaines, c'est ça?
Oui, c'est le protocole dont parlait Gaëtane, qui s'appelle MBSR ou MBCTR, enfin ça c'est du jargon de psy, et finalement 8 semaines, c'est 2 mois d'apprentissage. C'est pas énorme, même pour les bénéfices que ça apporte.
Merci hein, Gaëtane. Corinne nous demande est-ce que c'est vrai que le sport peut aider et même remplacer les antidépresseurs? Docteur Guillaume Font, l'activité physique et sportive a été évaluée scientifiquement par l'INSERM pour accompagner les personnes en dépression. Le sport, c'est donc un bon antidépresseur naturel?
Oui, on dit que courir trois fois 45 minutes par semaine. C'est un demi-Prozac, pour caricaturer. Il y a des méta-analyses maintenant, des compilations d'études qui prouvent l'efficacité de l'activité physique. Alors, on recommande de l'activité physique plutôt ce qu'on dit aérobie, c'est-à-dire plutôt du cardio, plutôt en groupe, parce qu'il y a le lien social qui est important, sans compétition, donc pas de performance attendue. Et il y a de plus en plus de psychiatres maintenant qui font des prescriptions d'activité physique en complément ou en relais des antidépresseurs.
Et de plus en plus de services hospitaliers qui s'équipent d'une salle de gymnastique, enfin, avec des tapis roulants et des machines. Enfin, c'était délirant ce truc. On avait des patients à qui l'activité physique aurait fait du bien et qui passaient leur journée à traîner dans leur lit ou dans leur chambre.
Alors, nous recevons une avalanche de questions sur les liens entre dépression et alimentation. Guillaume Fang, je signale que l'un de vos domaines de recherche, eh bien, ce sont les liens entre le microbiote intestinal et les troubles mentaux. Rappelons, par exemple, que 95% de la sérotonine, dont on parlait en début d'émission, se trouve dans notre intestin.
C'est pour ça que parfois les antidépresseurs ont des effets secondaires sur l'intestin, en termes de constipation ou de diarrhée, par exemple, parce que ça agit aussi sur la sérotonine de l'intestin.
Est-ce qu'une mauvaise alimentation chronique peut favoriser les épisodes dépressifs?
Alors maintenant, c'est très bien démontré, donc une alimentation riche en sucre raffiné, en graisse saturée, donc tout ce qui est inflammatoire, donc typiquement la junk food,
l'alimentation ultra transformée.
Ultra transformée, parce que qui dit ultra transformée dit hydrogénée, dit acide gras trans, enrichissement en sucre caché, etc. Tout ça augmente le risque de dépression, et à l'inverse, remplacer ça par une alimentation saine, fraîche, diminue et... Ça a été démontré, y compris chez les gens dépressifs, ça améliore les symptômes dépressifs.
Quelle est l'assiette qui accompagne au mieux les dépressifs? Est-ce qu'une assiette qui contient beaucoup d'oméga-3, une assiette qui ressemble à celle que l'on peut retrouver dans le régime méditerranéen, est-ce que c'est une assiette qui accompagne les dépressifs qui suivent un traitement?
Le régime méditerranéen est le régime qui a montré la meilleure efficacité dans la dépression, et on a identifié trois composants isolément qui améliorent la dépression, ce sont les oméga-3, la vitamine D et la vitamine B9.
On les retrouve où?
Alors, on les retrouve dans des poissons crus comme le saumon, dans des noix, dans
les sardines,
des légumes frais pour la vitamine D et B9, dans les œufs. Voilà, des composés. L'important, je pense, est de maintenir vraiment l'alimentation fraîche et équilibrée sans trop se poser de questions sur la composition. Mais par contre, c'est très difficile d'avoir suffisamment d'oméga-3 dans son alimentation actuelle.
Professeur François Chaste.
Oui, puisqu'on parle de nutrition, de régime, je voudrais insister sur le fait que les antidépresseurs font souvent grossir les patients. Et donc, il faut, je pense, au moment de la prescription, informer les patients qu'il existe ce risque, qui est un risque qui, au fil des semaines, des mois, peut ressembler à une dévalorisation du patient, puisque l'image qu'il va retrouver dans le miroir est une image un peu dégradée. On parlait d'esthétique tout à l'heure. Et donc, prévenir les patients est très important. On peut gagner, malheureusement, quelques kilos, parfois excessivement, et avec certains médicaments plus qu'avec d'autres.
Dans quel cas peut-on se tourner vers la phytothérapie? Beaucoup de questions sur le millepertuis, François Chaste.
Alors, le millepertuis est considéré comme une des plantes efficaces en général, et des plantes antidépressives. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est utile d'en prendre? Ma position personnelle est de dire non.
Pourquoi?
Eh bien, tout simplement parce que les concentrations de principes actifs dans le millepertuis sont éminemment variables d'une présentation à l'autre. Donc, millepertuis, ça veut rien dire. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis, par ailleurs, le millepertuis a un principe actif qui est l'hypericine, essentiellement, et un certain nombre de dérivés. Et cette hypericine, elle interagit avec le foie pour modifier le métabolisme de tas d'autres médicaments, par exemple les anticoagulants, par exemple les médicaments immunosuppresseurs. Et donc, on peut avoir une chute complète de l'activité d'un grand nombre de médicaments qu'on peut prendre en même temps. Et donc, c'est une plante qui est efficace mais dangereuse.
Vous conseillez la phytothérapie en complément des traitements antidépresseurs, docteur Guillaume Font ?
Alors personnellement, moi j'en ai pas besoin dans mon arsenal thérapeutique, c'est-à-dire que si on agit sur l'alimentation et l'activité physique en général, j'estime quoi, et avec les nouveaux antidépresseurs qui généralement sont bien tolérés, on a vraiment des nouvelles molécules qui ont très peu d'effets secondaires, généralement ça me suffit pour les patients.
Christophe André ?
Oui, il y a un aspect noir à la phytothérapie, c'est au fond se débarrasser du problème. Au lieu de prendre un antidépresseur, on prend quelque chose qui est perçu comme un antidépresseur light, bio, mais on ne change pas son mode de vie, on ne change pas sa façon de manger, etc. Et ça, c'est un souci. Oui.
Professeur François Chasse, je n'ose pas vous poser la question qui revient ce matin. Peut-on soigner la dépression grâce à l'homéopathie ? Je me souviens d'une précédente émission.
Je vais vous surprendre, Ali. Au fond, une part, alors je vais peut-être choquer mes collègues psychiatres, une part de l'efficacité des antidépresseurs, c'est l'effet placebo, une part. Certains ont hypertrophié cette activité placebo. Et donc, du coup, l'homéopathie, probablement, a une part d'activité, comme n'importe quel placebo. Pour autant, on a dit que c'est une vraie maladie, la dépression. Et donc, une vraie maladie, ça se traite avec de vrais médicaments. Donc, il faut rejeter l'homéopathie ici comme ailleurs.
Vous pouvez adresser vos courriers au professeur François Chaste. Merci à tous d'être venus. Guillaume Font peut dire avec profit, je fais de ma vie un grand projet chez Flammarion. Vous reviendrez pour nous parler de psychonutrition. François Chaste, les médicaments sans question, c'est chez Taillandier. Et nous recevons Sébastien Boller qui reviendra tous les mois dans cette émission, le brillant directeur de Cerveau et Psycho. Vous consacrez un dossier au lien entre le corps et l'esprit, donc dans le numéro de septembre. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce dossier ?
Eh bien, c'est quelque chose de surprenant. C'est un petit peu une inversion des liens auxquels on est habitué entre le cerveau et le corps. Quand on vous demande de résoudre un problème de géométrie ou de faire une dissertation dans une langue étrangère, vous avez l'impression que vous allez devoir faire appel à votre cognition, à des choses qui se passent au niveau des neurones, de ce que vous avez appris. C'est vrai, d'accord. Mais en réalité, on s'aperçoit que ce que fait votre corps à ce moment-là a une énorme importance. C'est en train de pénétrer, par exemple, les milieux de l'éducation et de la pédagogie dans certains pays, beaucoup en Allemagne, aux États-Unis. C'est par exemple des expériences où pour inculquer aux enfants la notion de triangle ou de rotation mentale dans l'espace, vous savez, la géométrie dans l'espace, et ben au lieu de leur donner des cours magistraux, ben on les fait jouer avec des cubes. Voilà, ils manipulent des cubes, des triangles, des cônes, et on s'aperçoit qu'ils acquièrent beaucoup mieux ensuite les notions de visualisation dans l'espace. C'est-à-dire que la participation du corps, donc des mains, qui va rétroagir sur l'activité d'une partie de notre cerveau, qui s'appelle le cortex sensorimoteur, qui régule la position de notre cœur, va ensuite permettre de synchroniser l'activité d'autres zones cérébrales dévolues à la vision, à la visualisation dans l'espace, ou à la récupération des mots, par exemple. Il y a une théorie qui s'appelle la réaction corporelle totale.
C'est quoi ?
Pour l'apprentissage des langues, par exemple. Vous apprenez l'anglais, on vous dit « open the door », et on vous dit ça veut dire « ouvre la porte ». Et puis, dans cette méthode de réaction physique totale, on dit « non, tu vas pas simplement mémoriser le fait que ça veut dire « ouvre la porte », tu vas aller ouvrir la porte ». Et là, de la même façon, les résultats en termes de rétention de l'apprentissage sont bien meilleurs. C'est quelque chose qui touche un petit peu tous les domaines, donc c'est très utile pour peut-être concevoir l'enseignement d'une façon un petit peu différente, et puis pour nos vies à tous, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous lisez un livre, beaucoup de gens se demandent, je pourrais passer peut-être à la liseuse, hein, et on s'aperçoit qu'en fait la représentation que les gens ont de la temporalité du récit n'est pas la même quand ils ont un livre physique entre les mains ou quand ils ont une liseuse. Et les expériences montrent qu'en fait, inconsciemment, quand on a un livre entre les mains, eh bien, nos mains sentent l'épaisseur qu'on a déjà lue et celle qui reste. Et donc, on se situe mentalement sur une ligne graduée qui nous indique où on en est dans la progression du récit.
Et dans le cerveau psycho, il y a un très bon entretien avec Rémi Versas qui revient donc sur cette notion de cognition incarnée.
Rémi Versas qui travaille à l'université Lyon 2, effectivement, qui nous explique que ça a des effets parfois très surprenants. On vous pose deux tasses devant vous, et laquelle vous semble contenir la meilleure boisson, puis on vous les fait goûter, puis en fait c'est le même liquide, mais vous préférez celle qui est à droite. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, si vous êtes droitier, vous êtes habitué à interagir plus facilement avec la partie droite de votre environnement. Il y a la notion d'aisance, ce qu'on appelle l'affluence, qui vous conduit à percevoir émotionnellement de façon plus positive ce qui est à votre droite.
C'est à lire dans le passionnant Cerveau et Psycho du mois de septembre. À lire, vous reviendrez le mois prochain, Sébastien Boller. On fera une émission ensemble consacrée à la migraine.